السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن، après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, chers invités d'Allah, il convient en ces grands jours, les meilleurs jours de l'année, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de témoigner notre reconnaissance du fait qu'il nous a maintenus en vie et qu'il a dirigé nos cœurs et nos membres vers le meilleur endroit au monde, le berceau de la prophétie, la ville natale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lieu de rencontre, le lieu de rencontre entre les Ansar, Al-Muhajiri et le prophète Muhammad alayhi salat wa salam, Khayr al-Mursalin alayhi salat wa salam. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a préféré à bon nombre de ses serviteurs et nous a facilité ce noble voyage qui, pour la plupart d'entre vous, avait pu accomplir Al-Umrah fi ashhur al-Hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à cette grande adoration. Il nous dit alayhi salatu wa salam, Al-Hajj wal-Ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu sa'aluhu fa'a'tahum. Le prophète alayhi salat wa salam nous montre la valeur du pèlerin, sa haute place chez Allah, le Seigneur des mondes, et nous dit, le pèlerin, celui qui accomplit le hajj, wal ummar, ceux qui accomplissent la umrah, sont les invités d'Allah, les invités d'Allah. Il les a invités, ils lui ont répondu, ils lui ont demandé, il les a exaucés. Ça, c'est la place du pèlerin chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute chose qui est élevée, honorée et valorisée chez Allah, le Seigneur des mondes, se doit de l'être dans le cœur de chacun de ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, يخلق ما يشاء ويختار. Il crée ce qu'il veut et il choisit. Il a décidé, tabaraka wa ta'ala, d'élever le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de l'ensemble des gens, de l'ensemble des prophètes et des messagers. Il a décidé d'élever Laylatul Qadr,
la nuit de la grande valeur et de la destinée, au-dessus de l'ensemble des nuits de l'année. Il a décidé d'élever l'ange Jibril alayhi salam au-dessus de l'ensemble des anges. Il a décidé d'élever Mecca au-dessus de l'ensemble des villes du monde. Sachez, chers serviteurs d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal a décidé d'élever, d'honorer, de valoriser, de préférer les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah à l'ensemble des jours de l'année. Il leur a accordé des particularités, des spécificités, ce qui nous montre la grande valeur de ces jours. Allons-nous alors les laisser passer comme n'importe quel autre jour de l'année? Allons-nous alors être distraits et ne pas utiliser ces jours comme tremplin et provision pour l'acheminement vers Allah et la demeure de l'au-delà? Le serviteur d'Allah qui veut le bien pour sa personne se doit de connaître la valeur de ces jours pour les utiliser de la meilleure manière en tant que tremplin qui le propulse vers Allah et la demeure de l'au-delà. Parmi les spécificités de ces 10 premiers jours, les meilleurs jours de l'année, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal en est fait les meilleurs jours de manière absolue. Il n'y a pas de jour chez Allah Azza wa Jal meilleur que ces 10 jours dans lesquels Allah Azza wa Jal nous a permis d'être en vie. Deuxièmement, parmi les spécificités de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait juré par cela dans Sourate Al-Fajr, Wal-Fajr, Walayalin Ashr. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, turjuman al-Qur'an, nous dit Yal Ashrul Uwal min Shahri Dhil Hijjah. Dans le tafsir de ce verset, Abdullah ibn Abbas ainsi que la majorité des savants et des exégètes du Qur'an nous disent il s'agit des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par une chose, ça nous montre sa grandeur et sa grande valeur. Troisièmement, parmi les spécificités de ces 10 premiers jours, le fait qu'il n'y ait pas de moment dans l'année, qu'il n'y ait pas de jour dans l'année durant lesquels l'adoration est plus aimée chez Allah que ces 10 premiers jours. Toi, cher serviteur d'Allah, toi, chère servante d'Allah, pourquoi est-ce que nous et vous avez été créés? Allah Azza wa Jal nous enseigne cela dans plusieurs passages du Coran, notamment dans Surat al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance, ni qu'ils me nourrissent, mais c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et à la fin de Suratou, At-Talaq, il nous enseigne une autre sagesse de notre création. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله est celui qui a créé cette terre ou sept cieux, pareillement pour les terres, c'est-à-dire sept. L'ordre descend entre les deux. Pourquoi tout cela? Pourquoi toute cette création? Allah nous dit, afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent, c'est-à-dire capable de toute chose. Et que de sa science, il embrasse toute chose. Allah nous a créés pour qu'on le connaisse. Pour qu'on connaisse sa perfection. De cette connaissance découlera l'adoration. Et le fait d'adorer Allah seul d'un culte sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, mais il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Et si on accomplit ce qu'il nous a commandé, il nous pardonnera nos péchés, nous guidera sur le droit chemin, nous accordera le bonheur et la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, « Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhi al-ashr. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhi al-ashr. يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. Écoutez bien ce hadith. Entendez-le avec vos cœurs, avant vos oreilles, et que découle de cette écoute la soumission à Allah Azza wa Jal, la concurrence et la course vers un paradis vaste comme les cieux et la terre, vers un pardon et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous rapporte, d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jour durant lesquels l'adoration est plus aimée chez Allah que ses 10. C'est-à-dire que les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. C'est-à-dire que les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et permettez-moi de vous interroger. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Naam. Vendredi, ça sera le 8e jour du mois de Dhul-Hijjah. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4e jour, naam, du mois de Dhul-Hijjah. Est-ce que le 4e jour du mois de Dhul-Hijjah rentre dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah ou non? Dites-moi. Oui. Alors on est tous concernés par ce hadith. Depuis 4 jours, on est tous concernés par ce hadith. Allah Azza wa Jal t'a gardé en vie. Là où autre que toi est décédé. Allah te permet de marcher sur la terre, là où autre que toi était enterré sous terre. Allah Azza wa Jal te permet de parler, de prier, de jeûner, de faire des sadaqat, d'être bienfaisant envers tes parents, de prononcer de bonnes paroles, d'appeler au bien, de proscrire le blâmable. Allah t'a permis cela et beaucoup d'autres choses encore. Donc remercie Allah Azza wa Jal de faire partie des vivants et des croyants dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et qui sait, peut-être que la bonne œuvre qui te fera entrer au paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah se trouve dans ces 10 premiers jours-là. Je répète le hadith, il n'y a pas de jour durant lesquels l'adoration est plus aimée chez Allah que ces 10 jours. C'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et lorsque le prophète alayhi salat wa salam a mentionné ce hadith, il n'a pas spécifié d'adoration. C'est-à-dire que c'est ouvert. C'est-à-dire que toutes les adorations sont demandées, sont récompensées et sont voulues et visées par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma min amal azka inda Allah wa la a'zama ajra min khayrin ya'maluhu fi ashril adha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, il n'y a pas d'œuvre plus pure chez Allah ni plus immense en matière de récompense. Je répète, il n'y a pas d'œuvre plus pure chez Allah, ni plus immense en récompense qu'une bonne action, qu'un bien accompli dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, la récompense la plus immense, elle est donnée pour l'adoration que
que tu vas accomplir dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. On ne doit pas négliger ce moment. On ne doit pas négliger cette occasion. Et qui sait si elle nous reviendra l'année prochaine. Et qui sait si on aura la même santé, les mêmes conditions l'année prochaine. Également, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min ayyam a'azamu ila Allahi wa ahabbu ila Allahi al-amalu salihu fihinna min hadhi al-ashr fa'akthiru fihinna al-tasbiha wa al-tahmida wa al-tahlila wa al-takbir » Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: il n'y a pas de jour plus grandiose auprès d'Allah, ni durant lesquels l'œuvre pieuse lui est plus aimée que ces 10 jours-là. Que ces 10 jours-là. Prononcez donc avec abondance le tasbih, c'est-à-dire subhanallah. Le tahmid, c'est-à-dire alhamdulillah. Le tahlil, c'est-à-dire, dites-moi, la ilaha illallah. Wa takbir, c'est-à-dire, Allahu Akbar. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam spécifie certaines œuvres pour lesquelles il faut particulièrement œuvrer avec abondance. Il s'agit de dhikrullah. Il s'agit de l'évocation d'Allah. Particulièrement ces 4 paroles sur lesquelles on reviendra, inshallah ta'ala. Quatrièmement, parmi les spécificités et la grandeur de ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, et ça c'est très subtil, ce que les savants ont mentionné, c'est que les adorations mères sont réunies dans ces 10 premiers jours. Et elles ne se réunissent dans aucun autre moment de l'année. Quelles sont les adorations mères? Al-Shahadatan. Naam. Attester que seul Allah mérite l'adoration. Et que Mohammed est le messager d'Allah. Du début du mois jusqu'à la fin du mois, cela est un emblème. Et particulièrement pour celui qui fait le hajj. Dans le hadith de Jabir ibn Abdillah rapporté par l'imam Muslim, فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ. Le prophète alayhi salatu wa salam s'est mis en tête haram par quelle formulation? La formulation du tawhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Et demain, inshallah ta'ala, on expliquera en détail le sens de la talbiya. Et les effets de la talbiya sur le cœur du croyant. Et dans sa vie par la suite. Donc, al-shahadatan est réuni dans ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Deuxièmement, as-salah, l'accomplissement de la prière. Et tu conclus même ces 10 jours bénis par quoi? Le 10e jour, qu'est-ce que tu fais? Le jour du Eid. Hein? Salatul Eid. Naam, salatul Eid. Puis les gens se félicitent comme le faisait Sahab en disant quoi? Taqabbal Allahu minna wa minkum. Qu'Allah accepte de nous et de vous. Qu'Allah accepte quoi? Celui qui n'a pas fait des efforts pendant ces 10 derniers jours. Et on le félicite pourquoi? Qu'Allah accepte quoi? Parce qu'ils redoublaient d'efforts dans les 10 premiers jours. Parce qu'ils adoraient Allah Azza wa Jal. Et se concurrençaient dans les bonnes œuvres. Alors le jour du Eid, réellement pour eux, c'était un jour de fête. C'est pour ça qu'ils se félicitaient. Et à la fin du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il y a? Le lendemain de Ramadan, qu'est-ce que tu fêtes? Eid al-Fitr. Et qu'est-ce que tu dis à ton frère, à ta famille? Taqabbal Allahu minna wa minkum. Pourquoi? Tu les félicites pour l'adoration dans les jours de Ramadan et dans les nuits de Ramadan. Pour lui, réellement, c'est un jour de fête. Mais pour celui qui n'a pas fait d'effort dans le mois de Ramadan, pour celui qui n'a pas fait d'effort pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, il est félicité pourquoi? C'est un jour de fête pourquoi? Parce qu'il a des vêtements neufs? Parce qu'il a des beaux vêtements? Ces vêtements, on te les enlèvera lorsqu'on va te laver quand tu seras mort. Ces vêtements-là, on te les enlèvera quand on va prier sur toi.
Ces vêtements-là, on te les enlèvera lorsqu'on va te glisser dans ta tombe. Ces vêtements-là, tu en seras dénudé lorsqu'on va revêtir la terre sur ton corps. Ces vêtements-là, c'est pas pour ça que c'est le jour du Eid. Ces vêtements-là, c'est pas pour ça que c'est le jour du Eid. Regarde le ami, comment est-ce qu'il est habillé devant moi. Regarde les frères, comment ils sont habillés à ma gauche. El Rida qui couvre la partie supérieure. El Izar qui couvre la partie inférieure. On rentrera tous comme ça dans notre tombe. Que avec le linceul. Quelques étoffes de tissu. Aucune différence entre le gouverneur et le gouverné. Aucune différence entre l'homme et la femme. Aucune différence entre l'adulte et le bébé. Aucune différence entre le riche et le pauvre. Aucune différence entre le blanc et le noir. Aucune différence entre l'arabe et le non-arabe. Illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Aucune différence. Comme le jour de Arafat. Tous les gens habillés de la même manière, au même endroit. Aucune différence entre eux chez Allah. Si ce n'est avec quoi? Avec la piété. Avec la piété. Donc aujourd'hui, il faut préparer ce jour. Aujourd'hui, il faut préparer le jour où on ne pourra plus œuvrer. Aujourd'hui, il faut se préparer et prendre ses provisions. Et quelle meilleure provision que d'œuvrer et d'agir dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. On répète, ces 10 premiers jours réunissent les adorations mères. Al-Shahadatan, la Salat, Al-Zakat, Al-Sadaqat, Na'am, Al-Siyam, c'est recommandé de jeûner, ça fait partie des œuvres pieuses. Et le pèlerinage que tu trouves nulle part ailleurs dans l'année. Al-Hajj, que tu trouves nulle part ailleurs dans l'année. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, chers invités d'Allah, pour la plupart d'entre vous, cette année, vous allez accomplir le Hajj. Pour certains, la première fois. Pour certains, la deuxième fois. Pour certains, la énième fois. Mais c'est comme si c'était la première fois. On demande à Allah Azza wa Jal de nous maintenir en vie. De nous honorer. Et de nous permettre d'accomplir le pèlerinage. Un hajj mabrour. Un hajj parfaitement accompli. Pour avoir la récompense promise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal hajj al mabrour. Laysa lahu jaza'un illa al jannah. Le pèlerinage parfaitement accompli n'a d'autre récompense si ce n'est le paradis. Cinquièmement, parmi la grandeur de ces jours et leur spécificité, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait choisis pour mettre le cinquième pilier de l'islam, l'adoration d'Allah azza wa jal, le pèlerinage à la maison sacrée de la Mecque. Le huitième jour de Dhul-Hijjah, c'est le jour de Tarwiyah. Tu prendras ta douche, ô toi le pèlerin, l'invité d'Allah. Tu te parfumeras. Le corps, la barbe, la tête. Dénudé de tout vêtement habituel. Et tu mettras le hizar blanc, immaculé, qui couvre la partie inférieure de ton corps. Puis le rida, qui couvre la partie supérieure de ton corps. Et tu diras, labbaik Allahumma hajja. Et tu diras, je réponds à ton appel, oh Allah, en accomplissant le pèlerinage. Ya Allah, tu m'as invité, je t'ai répondu. Ya Allah, tu m'as ordonné, je me suis soumis. Je viens avec le cœur plein d'amour pour toi, de vénération. J'espère ton pardon pour mes nombreux péchés, mes nombreuses fautes. J'espère ta miséricorde et je suis là pour obtenir ton paradis. Puis tu sortiras de l'autel en état d'ihram, en prononçant la talbiya, pour te diriger à Mina. Et sur le chemin, tu crieras « Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. » Jusqu'à arriver à Mina, tu prononceras cet emblème du pèlerinage, qui est une parole de réponse à l'invitation d'Allah et son appel et son ordre. Je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé. C'est-à-dire dans cette réponse, dans ces adorations, dans cette obéissance, toutes les louanges, la royauté, les bienfaits, la grâce, la royauté t'appartiennent. Tu n'as pas d'associé dans cela. Et tu répéteras cette belle parole, la parole du tawhid, du monothéisme pur, l'héritage des prophètes et des messagers, jusqu'à arriver à Mina. Et à Mina, tu prieras le dhohr à l'heure, deux unités de prière, avec le adhan et l'iqama. À l'heure du asr, tu prieras à l'heure, deux unités de prière avec le adhan et l'iqama. À l'heure du maghrib, il aura le adhan puis l'iqama, tu prieras trois unités. À l'heure du isha, il y aura le adhan puis l'iqama, tu prieras deux unités. Puis le lendemain, incha'Allah ta'ala, tu te réveilleras dans un des plus grands jours de l'année, Yawm Arafah. Le jour durant lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Al-Hajj Arafah, c'est le plus grand pilier du pèlerinage. Le jour durant lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit il n'y a pas de jour durant lequel Allah a franchi plus de serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafah. Allahu Akbar. C'est le jour où Allah sauve le plus de gens de l'enfer. Il est dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja. Tu sortiras après le shuruq, dans la matinée, en prononçant la talbiya labbaik Allahumma labbaik, jusqu'à arriver à Arafah. Il y aura l'adhan. Et là, tu regrouperas le dhahr et l'asr, jam'a taqdim, ma'a l'qasr. Il y aura l'adhan, puis l'iqama. Tu prieras le dhohr, deux unités de prière. Juste après, il y aura l'iqama, sans nafila entre les deux. Et tu prieras juste après le asr. Et ensuite, la course au paradis commencera. Tu feras dua jusqu'au maghrib. Et ce jour-là, il y aura des bienheureux. Ce jour-là, il y aura des affranchis d'Allah. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal se rapproche et descend au ciel de ce bas monde et dit « Voyez mes serviteurs et ils se vantent de vous, chers pèlerins, auprès des anges rapprochés. Et ils annoncent qu'il vous a tous pardonné. » Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés des gens de la place du jour dernier. Deux parmi les grands savants chez les pieux prédécesseurs étaient le jour de Arafah. Et arrivés au coucher du soleil, l'un a dit à l'autre, « Sais-tu lequel de ses serviteurs a la plus mauvaise opinion d'Allah ? Sais-tu qui est le pire des serviteurs aujourd'hui ?» Il lui a dit, « Dis-moi la réponse. » Il lui a répondu, « Celui qui pense d'Allah, qu'il ne va pas pardonner à ces gens-là. » Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour de Arafah, a tellement fait dua, il ne s'est pas assis un instant. Il était sur sa monture, il levait les mains. Et à un moment, la bride ou la reine de sa chamelle est tombée, comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé cette main-là en dua et il l'a ramassée. Allahu Akbar. Une seconde, il n'a pas baissé les mains. Il est resté comme cela, il faisait dua. Et à un moment, pour ramasser les rênes ou la bride, il l'a ramassé, il a laissé l'autre main dehors. Il faisait dua, et dua, et dua, et dua, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Après, tu partiras de Arafah pour aller vers Muzdalifah, encore et toujours avec talbiya, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk. Espérant qu'Allah Azza wa Jal exauce tes invocations, celles que tu as fait pour toi, celles que tu as fait pour tes parents, pour les femmes, pour les enfants, pour les oncles, pour les tantes, pour les voisins, pour les amis, pour les savants, pour les gouverneurs, pour ceux qui sont en vie comme pour ceux qui sont morts, pour les guider, pour qu'ils soient raffermis, pour les égarer, pour qu'ils soient guidés. Et tu arriveras à Muzdalifa. Et là tu prieras, il y aura l'adhan, puis l'iqama, tu prieras le maghrib, 3 raka'at, puis il y aura l'iqama, tu prieras l'isha, 2 raka'at. Puis tu feras le witr et tu te reposeras et ne prieras pas cette nuit comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Le lendemain, tu te réveilleras. Le lendemain, tu te réveilleras, tu prieras le fajr, sunnatul fajr, puis la prière du fajr. Ensuite, tu feras dua, tahlil, takbir. Et lorsque le soleil aura jauni, avant le lever du soleil, tu partiras vers al-jamarat pour jeter 7 pierres sur la grande stèle. À chaque pierre, tu diras Allahu Akbar. Tu te déplaceras avec la talbiya et là, après avoir jeté les 7 pierres, après avoir jeté la première pierre, tu arrêteras la talbiya. La talbiya s'arrête ici. Puis tu partiras te raser la tête, la bête sera sacrifiée. Tu iras te laver, tu sors de l'état d'ihram partiellement, tu te laves, tu te parfumes, tu mets tes vêtements, ton qamis et tu vas à la Kaaba pour faire le tawaf et faire le sa'i. Puis tu reviens à Mina. Tu passes la nuit plein de dhikr. Le lendemain, le 11e, le 12e, le 13e, tu restes à Mina, tu fais du dhikr. Et chaque jour, tu vas jeter les pierres sur la stèle. Et pour chaque pierre jetée, tu dis Allahu Akbar. Après la première, tu fais dua. Après la deuxième, tu fais dua. Après la troisième, tu repars. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et écoutez la grande récompense. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pour chaque pierre jetée. Pour chaque pierre jetée sur la stèle. C'est-à-dire 7 le jour du Eid. 21 le 11e. 21 le 12e. 21 pour ceux qui restent le 13e. Allah, le prophète sallam nous dit, Allah t'efface un grand péché gravissime parmi tes péchés. Allahu Akbar. Allah t'efface un grand péché. Et tu rentres ce jour-là. Puis tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il accepte ton hajj. Voici, chers serviteurs d'Allah, invités d'Allah, la grande récompense de ces 10 premiers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le plus grand jour chez Allah, c'est le jour du sacrifice. Et il nous dit aussi, pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage, صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبلها والسنة التي بعدها. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le jeûne du jour de Arafa. Ça c'est pour celui qui n'est pas au pèlerinage. Il efface, Allah efface les péchés avec ce jeûne-là de l'année précédente et de l'année à venir. L'année précédente, tu es dans le dernier mois de l'année. Ça efface les péchés de l'année passée. L'année suivante, l'année à venir. Donc ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, véritablement et réellement, ils sont les meilleurs jours de l'année. Ils sont les meilleurs jours et les plus grands jours de l'année. Quel sera notre état dans ces 10 premiers jours? Comment allez-vous agir après avoir entendu ces textes? Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Préservez votre temps. Préservez votre temps. Le temps des cadeaux sera plus tard, Inch'Allah, après le pèlerinage. Préservez votre temps dans la préservation des prières obligatoires. Préservez votre temps dans le dhikr. Préservez votre temps dans le jeûne. Allah nous dit « وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ » et qu'il mentionne Allah dans des jours connus. Il s'agit des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. En commençant par les actes obligatoires. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah le très haut dit, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْنَ حَبَّ إِلَيْهِ مِمَّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une action que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc on se concentre d'abord sur les obligations. La prière. La bienfaisance envers les parents.
on se concentre en premier lieu sur ce qu'Allah nous a rendu obligatoire, le bon comportement et autres. Ensuite, une personne peut s'interroger. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Que nous recommandent les savants? Premièrement, at-takbir al-mutlaq. De la première nuit de Dhul-Hijjah jusqu'au coucher du soleil du 13e jour, il est recommandé de beaucoup prononcer le takbir. Il est recommandé de beaucoup prononcer le takbir. C'est-à-dire, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Tu prononces beaucoup cela. Les âmes à voix haute, que ce soit chez lui, que ce soit dehors, que ce soit sur le chemin, que ce soit au marché, que ce soit au travail, tu prononces beaucoup le takbir. Et la femme, elle le prononce beaucoup, qu'elle soit chez elle, ou dehors, qu'elle soit, ou quel que soit l'endroit où elle est, elle le prononce, si ce n'est que s'il y a des étrangers. Elle ne le prononce pas à voix haute. Elle ne le prononce pas à voix haute. Donc beaucoup, beaucoup de zikr. Et comme on a vu dans le hadith précédent, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc beaucoup de takbir et beaucoup de zikr de manière générale. Deuxièmement, pour celui qui n'est pas au pèlerinage, Siyamu yawmi Arafa. Il jeûne le jour de Arafa. Ça lui effacera l'année passée, l'année à venir de péché, Inch'Allah. Troisièmement, Al-Udhiyya. Le sacrifice de la bête pour le jour du Eid, que tu peux sacrifier à partir d'après la prière du Eid, le 10e jour, ou bien le 11e, ou bien le 12e, ou le 13e, avant le coucher du soleil. Parmi les grandes adorations, le Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée. Allahu Akbar. Bonne nouvelle, Wallahi, à celui qui accomplira le pèlerinage. La récompense, elle est incommensurable. Nul ne peut la mesurer. Nul ne peut la quantifier. Les récompenses, nul ne peut les dénombrer, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la récompense. Et on verra, inshallah, prochainement, ces récompenses-là, ou une partie du moins. Parmi les bonnes œuvres qu'on peut accomplir, as-siyam, le jeûne. Parmi les bonnes actions qu'on peut accomplir, la lecture du Coran. Pour chaque lettre, Allah te donne une récompense qu'on multiplie par 10 jusqu'à yani plus encore. Donc pour chaque lettre que tu liras, tu auras 10 récompenses. Naam, tu auras 10 récompenses. Tu lis une fois le Coran, tu as des millions de hasanat. Allahu Akbar. Tu as des millions de hasanat. Wallahi, combien de millions on a raté à perdre notre temps. Certains devant la télé, devant les écrans. D'autres dans la médisance, en train de manger la chair de son frère, de sa sœur. D'autres à écouter du haram. D'autres à regarder du haram. Combien de millions de hasanat on perd à perdre notre temps, à dormir pendant les salats obligatoires. Combien de millions de hasanat on perd au quotidien parce qu'on n'ouvre pas le livre d'Allah. Et notre langue ne bouge pas par la lecture des paroles d'Allah. Combien de millions de hasanat on perd quotidiennement, ikhwat al-iman, duyuf al-rahman. Si on ne se ressaisit pas dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, quand est-ce qu'on va se ressaisir? Si on ne se réforme pas dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, quand est-ce qu'on va se réformer? An al-awan. Le temps est venu de revenir vers Allah. Et parmi les grandes adorations dans le mois de Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, il y a Tawbat wal-Inaba.
le repentir sincère et le retour vers Allah. Le repentir, c'est-à-dire, premièrement, tu regrettes le péché. Tu regrettes. Tu n'es pas fier de toi. Tu regrettes parce que tu as désobéi à Allah qui t'a tout donné. Tu as désobéi à Allah qui t'a créé pour que tu l'adores et ne lui désobéisses pas. Et toi, tu lui as désobéi. Et nous, on lui a désobéi. Tu regrettes. Parce que tu as été créé pour adorer Allah. Tu regrettes. Parce que tu es un serviteur faible d'Allah. Tu regrettes. Parce que chaque jour, Allah te donne. Chaque jour, Allah te guide. Chaque jour, Allah te donne ta subsistance. Chaque jour, Allah préserve ta famille, tes proches. Il leur donne leur subsistance. Et nous, avec ingratitude et manque de reconnaissance, on pêche et on désobéit à Allah. Alors tu regrettes. Deuxièmement, tu cesses le péché. Tu arrêtes. Tu dis ça, c'est fini. J'arrête. Atubu ila Allah. Je reviens vers Allah, je cesse le péché. Troisièmement, la ferme intention de ne pas recommencer le péché. Tu es déterminé pour le futur. Tu as une bonne intention, une haute détermination. Je cesse le péché. J'arrête. Et je ne retourne pas à cet égarement. Je ne retournerai pas à cette faiblesse. J'ai brisé les chaînes du shaitan qui m'a asservi dans sa passion et qui voulait me traîner avec lui en enfer, là où il a été consigné et enregistré. Tu sors de cette servitude. Tu sors de cette humiliation et de cette faiblesse que d'être sujet à la passion et ne pas réussir à sortir du suivi du shaitan et revenir à Ar-Rahman. Tu cesses et tu as la ferme intention de ne pas recommencer ce péché. Tu es déterminé et t'annonces ce repentir entre toi et Allah Azza wa Jal. Et les gens du haram, les mauvaises fréquentations, tu les conseilles, tu les exhortes, mais tu ne les fréquentes plus. Tant que eux ne reviendront pas à la droiture, au bon chemin, le chemin du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que désormais tu marches sur ses pas, tu marches derrière lui. Là où on marchait Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et Talha ibn Ubaidillah, Zubayr, Sa'd, Na'am, et les autres, tous les compagnons, radiallahu anhum, tu marches sur leurs pas. Là où ont marché les savants de l'islam, tu marches sur leurs pas. Donc tu ne vas pas avec les mauvaises fréquentations, ceux qui te tirent vers le mal. Mais toi, tu deviens une fréquentation noble, honorable, et c'est toi qui vas tirer ces gens-là vers le bien. Mais eux vont venir dans ton monde à toi. C'est pas toi qui iras les fréquenter et aller toi dans leur monde. Car c'est le monde de la désobéissance d'Allah et de sa colère. Aussi, il faut que ce repentir soit effectué dans le moment où il est encore accepté. Ce moment se divise en deux. Il y a un moment qui touche tout le monde. C'est le jour où le soleil se levera de son couchant. Se lève à l'ouest, à l'est, il se couche à l'ouest. Chaque jour, il demande à Allah la permission de se lever. De se coucher là et de se lever là-bas. Allah Azza wa Jal lui donne. Mais à la fin des temps, Allah Azza wa Jal ne va pas lui donner cette permission. Alors il va retourner d'où il est venu, il va se lever de son couchant. Et là, on va fermer la porte du repentir. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a mis une porte qui est ouverte, c'est la porte du repentir. Elle ne se refermera que le jour où le grand signe de la fin du monde retentira. C'est quoi? C'est le lever du soleil de son couchant. Et ce jour-là, tout le monde va croire, comme c'est dans le Coran. Mais ça ne sera pas bénéfique. Tout le monde va croire, c'est un signe qu'on ne peut mécroire, face auquel on ne peut mécroire. Donc tout le monde va croire. Mais celui qui n'avait pas eu la foi avant, ça ne sera pas bénéfique pour lui. Ça, c'est général. Puis il y a un temps particulier pour chacun d'entre nous. C'est quoi? C'est l'agonie. C'est l'agonie. Chaque nuit lorsqu'on se couche, notre âme sort. Chaque nuit quand on se couche, notre âme sort. Et quand tu vas te coucher, tu dis quelle invocation? Hein? Le sommeil, c'est la petite mort. Quelle est la preuve de cela? Quand tu te couches, tu dis quoi chaque nuit? Bismikallahumma a amut wa ahya. C'est en ton nom, Allah, que je meurs et que je vis. C'est quelle mort ça? C'est la petite mort. Chaque nuit, on retire notre âme, puis Allah Azza wa Jalla ne la redonne à ceux à qui il a prêté encore la vie. Quant à ceux qui décèdent, on ne leur rend pas leur âme. Chaque jour, Allah Azza wa Jalla nous redonne la vie. C'est la petite mort. Pour nous rappeler la grande mort et pour prendre les provisions. Et quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis? Tu remercies Allah, alhamdulillah, alladhi ahyana. Toutes les louanges reviennent de droit à qui? À celui qui m'a fait revivre. À celui qui m'a fait revivre. Ba'dama amatana, après m'avoir fait mourir. Wa ilayhi an-nushur. Et c'est vers lui que se fera le grand rassemblement. Chaque nuit quand tu dors et tu te réveilles, c'est un grand signe d'Allah et c'est un rappel pour la grande mort. C'est un rappel pour la grande mort. Et le musulman béni commence sa journée béni par quoi? Par le du'a, puis par la purification, puis par la salat. Allahu Akbar. Vraiment, la vie du croyant,
elle est bénie, c'est une vie heureuse, pleine de bonnes œuvres. Ça, c'est le repentir.
Parmi les bonnes œuvres à accomplir, il y a du'a. Le fait de faire du'a à tout moment, à tout instant. Tu fais du'a, tu te mets en direction de la Qibla, c'est meilleur. Tu lèves les mains, c'est meilleur. Tu fais les éloges d'Allah d'abord. Tu loues Allah Azza wa Jal. Tu fais ses éloges, tu mentionnes ses noms, tu mentionnes ses attributs. Deuxièmement, tu pries sur le prophète alayhi salatu wa salam. Troisièmement, tu te repens, tu demandes pardon pour les péchés. Ensuite, tu demandes à Allah avec le cœur vivant, avec le cœur présent. Tu répètes la demande. Ya Rab, Ya Rab, tu demandes, tu supplies Allah. Comme si tu étais tombé au milieu de la mer et que tu voyais pas les côtes et qu'il n'y avait personne pour t'aider, si c'était Allah. Tu demandes à Allah comme si tu étais dans cette situation-là. Tu demandes à Allah tout, le paradis, le pardon des péchés, la guider. Tu demandes à Allah cela pour ta famille, pour tes proches. Naam, tu demandes à Allah Azza wa Jal la santé. Tu demandes à Allah Azza wa Jal même une paire de chaussures. Tu demandes à Allah Azza wa Jal même le sel, c'est une adoration. Et wallah, même la goutte d'eau. La hawla wa la quwwata illa billah. Ne pense pas que tu bois chaque jour parce que t'es fort, parce que t'es riche. Wallahi, n'eût été Allah, personne d'entre nous aurait eu une gorgée. N'eût été Allah, personne d'entre nous aurait pu faire un pas. Allez visiter les hôpitaux. Regardez ceux qui sont malades, qui ne peuvent même plus boire une gorgée d'eau. Ils sont sous intraveineuse. C'est Allah Azza wa Jal qui nous donne la santé. C'est Allah Azza wa Jal qui nous permet. Dans le hadith, Ya ibadi, ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi la guider, je vous guiderai. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous nus sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Jusqu'à la fin du hadith. On a besoin d'Allah, il faut lui demander. Allah nous a ordonné dans le Coran de lui demander et nous a promis la récompense et le fait de nous exaucer. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبَ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. إِنَّ الَّذِينَ أَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration, face à du'a, سَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِي. Ils entreront en enfer, humiliés, avilis. Et du'a, c'est une grande adoration. Le prophète a dit, du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est ça l'adoration. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit inna Allah hayyun sittir yastahi min 'abdi aw min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilayya yaraddahuma sifra kha'ibatayn. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, certes Allah est pudique et a honte de voir son serviteur lever les mains vers lui et de les lui rendre vides. Allahu Akbar. Allah azza wa jal, si tu lui demandes, il aime. Quand tu lui demandes pas, il se met en colère. Alors que le fils de Adam, quand tu lui demandes, il aime pas. Plus tu demandes à Allah, plus il aime, parce qu'il est riche, il est généreux. Plus tu invoques Allah, plus tu es dans l'adoration. Na'am, barakallahu fikum. Parmi les grandes adorations, est sadaqa. Parmi les grandes adorations, est sadaqa. Et la sadaqa, elle éteint la colère d'Allah, comme l'eau éteint le feu. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, prémunissez-vous du feu de l'enfer en donnant ne serait-ce que la moitié d'une date en aumône. La moitié d'une date. La moitié d'une date, peut-être ça te sauve du feu de l'enfer. Que dire alors celui qui donne une date? Celui qui donne plus. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, kullu 'abdin fi dhilli sadaqati yawm al-qiyamah. Chaque serviteur sera sous l'ombre de sa sadaqa le jour dernier. Plus tu donnes de la sadaqa, plus tu seras sous l'ombre yawm al-qiyamah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, jamais une aumône n'a fait diminuer les biens d'une personne. Chaque jour, il y a deux anges qui invoquent. Le premier dit, ô Allah, donne à celui qui donne. Et le deuxième, ô Allah, fais périr les biens de celui qui ne donne pas, qui est avare. Le fait de donner, c'est une cause de bénédiction dans tes biens. C'est une cause de bénédiction dans tes biens. Quand tu donnes, Allah Azza wa Jal te multiplie par 10 jusqu'à 700 fois. Tu fais une seule sadaqa, Allah Azza wa Jal te la multiplie par 10 jusqu'à 700 fois. Il a adhaf in kathira. Plus étonnant que cela. Écoutez. Celui qui met l'intention de faire une sadaqa, Lui, il a un empêchement, il ne la fait pas. Allah Azzawajal ordonne à l'ange de t'écrire une hasana kamila, complète. Complète, et t'as rien fait. Juste pour cette bonne état du cœur. Juste pour cette bonne intention, Allah Azzawajal te donne une hasana. Et dans le hadith, kamila, complète. Pour pas qu'on se dise, oui, mais c'est incomplet parce que tu ne l'as pas accompli. Parmi les sadaqat pour ta famille, en premier lieu. Certains, lorsqu'ils veulent être bienfaisants, quand ils veulent faire des sadaqat, ils pensent à ceux qui sont loin. Ils oublient la mère qui l'a porté dans son ventre. Ils oublient le père qui est sorti contre vents et marées pour travailler pour lui, pour le nourrir, pour lui ramener ses cadeaux alors qu'il n'avait pas les moyens de lui donner son cadeau. Mais il n'a pas voulu que son fils se distingue et soit discriminé face aux autres. Alors il a travaillé et travaillé pour lui donner ce cadeau qui pour lui coûtait très cher, mais jamais il ne s'est plaint. Jamais il ne s'est plaint. Naam. Tu dois donner à tes parents avant quiconque. La meilleure sadaqa, c'est pour tes parents. La meilleure sadaqa, c'est pour ton épouse. Celle qui te réveille à Salatul Fajr. Celle qui patiente sur tes défauts. Celle qui, lorsque tu viens, tu rentres du travail, tu trouves ton plat chaud, posé. Celle qui, chaque jour, elle réfléchit quel plat va faire pour te satisfaire. Celle qui, au quotidien, même lorsqu'elle est fatiguée, elle s'embellit pour toi pour te satisfaire. Celle par laquelle tu trouves ton repos et tu baisses ton regard dehors. Non. Celle que lorsque tu es malade, elle prend soin de toi. Celle que lorsque tu lui dis ne prépare pas, tu es fatigué, elle te dit non, ça ne me dérange pas. Et en vrai, elle est en souffrance. Celle qui te dit tu es le plus beau, en vrai, c'est pas vrai. Hein? Celle qui t'a aimé, et après ta mort, elle ne va pas t'oublier. Toi, tu préfères des gens qui sont à côté de toi. Quand tu vas rentrer dans ta tombe, Wallahi l'Azim, ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier. Certains sont à côté de toi parce qu'ils espèrent un bien, ils ont peur d'un mal. Elle, elle est là. Elle est fiable. Elle est fidèle. Elle préserve ton honneur lorsque tu voyages. Elle se préserve. Elle ne fait pas rentrer un étranger chez toi. Quand tu es en voyage, elle a peur pour toi, elle fait dua. Quand tu as une souffrance et tu es malade, quand tu as des dettes et tu cherches une solution, pendant que tu es en train de dormir, peut-être qu'elle a fait le dos, elle s'est levée dans la nuit, elle a levé les mains pour toi, Allah Azza wa Jalla, le lendemain, il dissipe tous tes soucis. Et toi, tu dis, subhanallah, je ne sais pas d'où ça vient, il y a eu le faraj min Allah, mais peut-être que c'est cette femme pieuse, elle s'est levée dans la nuit, elle a levé les mains vers Allah. Cette femme-là, tu dois l'honorer. Cette femme-là, tu dois être fier de dépenser pour elle, tu dois la préserver. Tu dois lui recommander le bien, tu dois lui proscrire le blâmable. Et lorsque tu fais des adorations, tu dois l'encourager. Si elle est avec toi, alhamdoulilah, si elle n'est pas avec toi, tu l'appelles. Et tu l'encourages à faire des efforts dans ses 10 derniers jours, dans ses 10 premiers jours. Et tu lui dis, je te veux au paradis comme je te dis dans ce bas monde. Ça, c'est l'entraide dans le bien. Ça, c'est le couple qui donnera une descendance pieuse, bi-idhnillahi azza wa jal. On a besoin de descendance pieuse. On a besoin d'enfants de croyants pieux qui vont faire les imams pour nous, qui vont enseigner, qui vont nous laver quand on sera mort, qui vont prier quand lorsqu'on sera mort. Qui est-ce qu'on va laisser après nous, si ce n'est les enfants pieux? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, « Idha mata ibn Adam in qata amalu illa min thalath, sadaqatin jariya, ou ilmin yuntafa'u bih, ou waladin salihin yad'u lah. » Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, lorsque le fils de Adam décède, toutes ses actions s'interrompent. Toutes ses actions s'arrêtent. Il n'y a plus de hasanat. Il ne peut plus rien faire. Sauf 3 qui perdurent. Une aumône qui perdure. Comme celui qui a financé un puits ou autre. Une science de laquelle on tire profit. Celui qui a écrit des livres, enseigné la science. Celui qui a transmis un bien. Un hadith ou autre. Et troisièmement, un enfant pieux qui fait dua pour toi. On n'a pas dit un enfant. Un enfant, ça peut être un châtiment pour un papa, pour une maman. On a dit un enfant pieux, c'est l'enfant pieux qui est Moubarak. De ne pas avoir d'enfant, ça peut être une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parce que peut-être cet enfant, il allait t'égarer. Cet enfant, peut-être, il allait te rendre malade, il allait te tuer. Mais l'enfant pieux, c'est le ni'ma d'Allah Azza wa Jal. L'enfant pieux. Ce n'est pas l'enfant en soi, n'importe quel enfant. Non, le musulman, il ne cherche pas un enfant pour avoir un enfant. Le musulman, il veut un serviteur d'Allah en plus sur la terre d'Allah. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accorde à chacun une descendance pieuse et bénie. Et ceux qui ont déjà des enfants, qu'Allah les préserve, leur accorde la santé, qu'il les guide sur l'islam et la sunnah.
et qui en fassent la réjouissance de leur regard quotidiennement. Donc la sadaqa pour la famille en premier lieu. Pour eux, tu dépenses en premier. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que la meilleure sadaqa, c'est celle que tu donnes dans ton foyer. Jusqu'à la bouchée que tu portes à la bouche de ton épouse, Allah te récompense pour cela, si tu espères la récompense. Subhanallah. Quand tu déposes pour ta famille, c'est pas du gaspillage. C'est pas du gaspillage, c'est un investissement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, les autres proches, les amis, les gens honorables. Ensuite, les femmes veuves, les orphelins, les pauvres. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. » Ana wa sa'i ala al yatim wal armala kahataini fil jannah. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit « Moi et celui qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, on sera comme ça au paradis, comme ses deux doigts. » Et il a montré l'index le majeur, c'est-à-dire on sera proche. Allahu Akbar. Combien de femmes en détresse sur la terre d'Allah, de veuves, combien d'orphelins. Naam, il faut chercher ces gens dans le besoin et dépenser. C'est pas eux qu'ils ont besoin de nous, c'est nous on a besoin d'eux, Wallah. Quand tu lui donnes, c'est pas à lui de dire merci, c'est à toi de lui dire merci parce que ça a été une cause de hasanat. C'est une cause, inshallah, pour être au paradis avec lui, avec le prophète, alayhi salatu wa salam, plutôt. Barakallahu fikum, as-sadaqa. Et pour finir, il y a beaucoup d'autres bonnes actions. Lier les liens de parenté. Naam, lier les liens de parenté. Elle est sirfar. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres adorations. L'amour, la crainte, l'espoir. Naam, le sacrifice, on l'a mentionné. Mais je vais finir avec une adoration. Salatul Eid. Salatul Eid. Naam, en préservant ses sunan. En préservant ses sunan. Il reste combien de temps après salat, avant Salat al-Asr, Khouati? 25 minutes. Taïb. Vu qu'il reste un peu de temps, permettez-moi de vous offrir un grand cadeau. Permettez-moi de vous offrir quelques paroles qui sont chez Allah les plus aimées. Permettez-moi de vous offrir quelques paroles qui étaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses préférées. Permettez-moi de vous offrir quelques paroles qui gravitent autour du trône d'Allah Azza wa Jal, tel un bourdonnement d'abeilles en vous mentionnant. Et pour toute personne faible, qui n'a plus la force de faire certaines adorations, qui n'ont plus la force de faire certaines adorations, accrochez-vous à ces quatre paroles. Prononcez-les le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Que votre bouche ne cesse d'être humidifiée par ces paroles. Quatre paroles qui sont Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Et elles font partie du Coran. Et quelques hadiths qui, je l'espère, Inch'Allahu Ta'ala, après les avoir entendus toute votre vie, vous allez les prononcer en abondance. Et à chaque fois que vous rencontrerez une personne que vous aimez bien, vous l'encouragerez à prononcer ces paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on va mentionner les mérites de ces quatre paroles. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vais directement dire en français pour écourter le temps. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala nous rapporte le hadith Samurat ibn Jundub. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les paroles les plus aimées chez Allah le Très-Haut sont au nombre de quatre. Peu importe par laquelle tu commenceras. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar. À la fin, je poserai une question. Qui est que celui qui aura noté tous les mérites, on lui fera un cadeau, Inch'Allah. Celui qui aura noté, qui pourra mentionner tous les mérites, on lui fera un cadeau, Inch'Allah Ta'ala. Le premier mérite, ce sont les paroles les plus aimées chez Allah, apportées par l'imam Muslim. Dans le deuxième hadith, apporté par Abu Daoud al-Tayal ici, rahimahullah ta'ala, quatre paroles sont les plus bonnes des paroles. Et elles font partie du Coran. Peu importe par laquelle tu commenceras. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Le deuxième mérite, Le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé que ces quatre paroles lui sont plus aimées que tout ce sur quoi le soleil s'est levé. C'est-à-dire que tout se barbonte. Ces quatre paroles sont plus aimées au prophète alayhi salatu wa salam que tout ce sur quoi le soleil s'est levé. L'imam muslim rapporte d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, mais plus aimé que tout ce sur quoi le soleil se lève. Allahu akbar. Que tout se bas monte. Que tout se bas monte. Tout ce qu'il contient, comme or, comme argent, comme femme, comme enfant, comme rivière, comme mer, comme montagne, comme richesse et autres. Troisième mérite. C'est l'immense récompense de la personne qui a faibli et ne peut plus faire les grandes adorations. Les adorations plus lourdes. Dans le recueil de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et dans Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi rahimahullah, Ummu Hani, la tante du prophète alayhi salat wa salam, lui a dit: j'ai atteint un âge avancé et j'ai faibli. Ordonne-moi une œuvre que je pourrais accomplir tout en étant assise. Certaines mamans sont âgées, elles aiment Allah et son message, elles veulent faire beaucoup de hasanat. Et dans leur jeunesse, elles étaient très pieuses. Mais quand elles prennent de l'âge, elles ne peuvent plus marcher pareillement. Certains papas aussi sont âgés, ils ne peuvent plus marcher pareillement. Alors elle a demandé au prophète, alayhi salatu wa salam, une adoration qu'elle pourra faire en position assise. Il lui a dit, subhanallah, 100 fois. Tu auras la récompense d'avoir affranchi 100 esclaves des enfants d'Ismaïl. 100 esclaves des enfants d'Ismaïl. Et pourquoi on a précisé les enfants d'Ismaïl, alayhi salam, le fils d'Ibrahim, alayhi salam? Parce que ce sont les plus nobles des Arabes, c'est fait partie de la lignée du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Ensuite, il lui a dit, dis 100 fois Alhamdulillah. C'est comme si tu as investi dans le sentier d'Allah 100 bêtes. Ensuite, il lui a dit, dis 100 fois Allahu Akbar. Écoutez bien, c'est comme si tu auras donné en sacrifice 100 bêtes sacrifiées pour Allah. Dis 100 fois Allahu Akbar. C'est comme si tu auras sacrifié 100 bêtes acceptées chez Allah. Et dis 100 fois la ilaha illallah. Ça remplira l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Et ce jour-là, personne s'élèvera avec de meilleures œuvres chez Allah, sauf celui qui aura fait la même chose que toi. Voici un grand hadith. Barakallahu fikum. Le quatrième mérite, ça fait partie des choses qui expient les fautes et les péchés. Ça efface les péchés. Dans le musnad de l'imam Ahmed, dans le recueil de l'imam Tirmidhi et autres, comme Al-Hakim, Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est un hadith azim, wallah. Je suis obligé de le dire en arabe. Ma ala al-ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah. Wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubah aw dhunubuhu wa law kanat akthar min zabad al-bahr. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il n'y a pas une personne sur la terre qui dit la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah sans qu'on lui efface tous ses péchés, sans qu'on lui expie tous ses péchés, furent-ils l'équivalent de l'écume de la mer. L'écume de la mer, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a sur la surface de la mer. La mousse, les bâtons, tout ce qu'il y a sur la surface de la mer. Allah Azza wa Jal t'efface tout cela. Il s'agit ici des petits péchés. Si tu veux avoir en plus de cela les grands péchés effacés, il faut faire le repentir qu'on a décrit tout à l'heure. Pour faire le repentir qu'on a décrit tout à l'heure. C'était le combienième mérite? Le quatrième. Dans un autre hadith, rapporté par un tirmidhi selon Anas ibn Malik, le prophète alayhi salat wa salam est passé près d'un arbre dont les feuilles étaient sèches. Il a pris un bâton, il a tapé sur les branches. Que s'est-il passé? Vu qu'elles étaient sèches, elles sont tombées. N'est-ce pas? Il leur a dit, certes, subhanallah, plutôt certes, alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, font tomber les péchés du serviteur comme les feuilles de cet arbre sont tombées. Allahu Akbar. Tu fais du zikr, les péchés tombent de toi. Tu fais du zikr, Allah Azza wa Jal t'efface tes péchés, t'es assis, allongé, en train de marcher ou autre, quelle que soit la position, quel que soit le lieu, Allah Azza wa Jal t'efface tes péchés. Cinquième mérite. Ces quatre paroles font partie de l'engrais de la terre du paradis. C'est-à-dire, ça fait pousser ton royaume au paradis. Ce sont tes œuvres qui construisent ton paradis. Tu veux un arbre? Dis la hawla wa la quwwata illa billah. Une fois, on te plante un palmier au paradis. Allahu Akbar. C'est toi qui construis. Tu vois ta maison dans laquelle pour laquelle tu t'es fatigué. Hein? Peut-être tu l'as construit en un an, deux ans. Ensuite, tu as perdu des cheveux parce que tu avais dit à l'ouvrier de mettre ça en blanc cassé. Et en plus, c'est madame qui a choisi. Et lui, il a mis ça en blanc, immaculé. Après, ça fait des problèmes. Lui, tu lui avais demandé telle chose. Il n'a pas fait comme tu as dit. Alors que tu es reparti le voir et tu as corrigé. Tu as construit ta maison en un an, deux ans, trois ans. Tu as économisé. Tu as mis toute ta fortune, ta fatigue, ta sueur dedans. Là, c'est pas comme ça. Tu es assis là, à ta place. Tu dis subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est en train d'être construit. Hein? Un beau palmier, des fois, c'est 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Hein? Pour ceux qui habitent à Marrakech, ils connaissent. Naam? Et là, tu es assis à ta place, tu ne te fatigues pas, tu ne te déplaces pas, tu n'investis pas, tu ne te fatigues pas, tu n'as pas de relation avec les employés. Hein? Pas de migraine, pas de fatigue, pas de médisance, pas d'insultes, de disputes. Hein? Et tu construis ton paradis. Dans le voyage nocturne, le prophète Mohammed a rencontré le prophète Ibrahim salam, qui lui a dit, ô Mohammed, transmets mon salam à ta communauté et informe-les que le paradis à une terre qui est bonne, qui a une eau qui est pure, et que son sol pousse très vite si tu mets l'engrais. Son sol pousse très vite lorsque tu plantes. Et écoutez, et son engrais est subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'expression inna qi'an. Ça veut dire quoi qi'an? Vous voyez, lorsqu'il y a une plaine qui ne boit pas l'eau, lorsqu'il pleut, que se passe-t-il? S'il pleut à Mecca, par exemple, l'eau, elle stagne sur la terre. Et ça, c'est le terrain le plus propice à faire pousser la végétation. C'est ça, comme ça qu'on a décrit la terre du paradis. Dès que tu fais du dhikr, ça pousse rapidement. Donc, à toi de voir ce que tu veux au paradis. À toi de voir les constructions que tu souhaites avoir au paradis. Sixième mérite. Celui qui aura la vie la plus bénie et celui qui aura vécu le plus longtemps en faisant le plus de dhikr. Celui qui aura vécu le plus longtemps en islam en faisant du dhikr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a mentionné la récompense de trois personnes qui étaient à la même époque. Salam. C'est l'adhan. On marque une pause, inshallah, et on poursuit quelques minutes. C'est pas l'heure. Il reste combien de temps? Akhana. Akhana Mohamed. Baki 10 daqaiq. Bach el waqt. Laisse.
Achdaq. Jazakallah khair. Anta tuhibbu salah. Qu'Allah le récompense, il aime beaucoup la prière.
Finalement, il reste 10 minutes. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et Nasa'i dans son livre Amalul Yomi wal Layla rapporte le hadith d'Abdullah ibn Shaddad qui raconte une belle histoire. C'est l'histoire de trois personnes qui sont venus auprès du prophète alayhi salatu wassalam et se sont convertis à l'islam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, qui va prendre soin d'eux à ma place? Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu, ce grand compagnon, a dit, moi au messager d'Allah. Alors ils étaient auprès de Talha. Puis il y a une expédition. Alors le premier d'entre eux s'est engagé dans l'armée. Et il est mort dans cette expédition. Puis il y a une seconde expédition. Le deuxième a participé à cette expédition. Et il est mort dans cette expédition. Et le troisième, plus tard, est décédé dans son lit. Alors Talha radiallahu anhu a fait un rêve. Et il a vu en rêve que ces trois-là étaient au paradis. Ces trois-là étaient au paradis. Et il a vu que celui qui est décédé dans son lit, c'est lui qui avait la meilleure place. Ensuite, le deuxième qui est mort au combat. Ensuite, le premier qui est mort au combat. Alors, ça l'a étonné. Il a mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et qu'est-ce qui t'a gêné dans cela? Il n'y a pas meilleur auprès d'Allah que celui qui vit longuement dans l'islam, et qui prononce, écoutez bien, abondamment, Allahu Akbar, wa Subhanallah, wa la ilaha illallah. Walhamdulillah. Il n'y a pas meilleur que lui. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur d'entre vous est celui qui a vécu longuement avec un bon islam. Et cela fait partie de l'excellence dans l'islam, le fait de faire beaucoup de dhikr. Cher papa, chère maman, prononcez beaucoup ce dhikr. Beaucoup disent, moi j'arrive pas à apprendre beaucoup de Qur'an. Prononcez ce dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça fait partie du Qur'an. Et c'est les paroles les plus aimées d'Allah. Les paroles les plus aimées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Septième mérite, Allah azza wa jalla a choisi ses paroles. Parmi toutes les autres. Dans le hadith d'Abi Hurayrah radiallahu anhu et Abu Sa'id, dans le recueil de l'imam Ahmed et le Mustadrak de l'Hakim, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Allah vous a choisi parmi les paroles quatre paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Écoutez bien. Allah les a choisis et vous a donné une grande récompense. C'est ça le mérite. Allah les a choisis pour nous et y a rattaché la grande récompense. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est pas fini. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit subhanallah, on lui inscrit 20 récompenses. Et on lui efface 20 péchés. Celui qui dit Allahu akbar, pareillement. Celui qui dit la ilaha illallah, pareillement. C'est-à-dire quoi, pareillement? Ça veut dire quoi? Dites-moi. On lui inscrit 20 récompenses et on lui enlève 20 péchés. Écoutez bien à la fin. Et celui qui dit alhamdulillahi rabbil alamin, on lui inscrit combien? 30 récompenses. Je corrige. Celui qui dit alhamdulillahi rabbil alamin de lui-même. C'est ça le hadith, ça a son importance. Min qibali nafsi. De lui-même, on lui inscrit 30 et récompense, on lui efface 30 péchés. Taïb. Pourquoi 30 récompenses pour Alhamdulillahi Rabbil Alamin et 20 pour le reste?
Vous savez pourquoi?
Les savants ont dit, en général, quand tu dis Alhamdulillah, c'est suite à quoi? Suite à un bienfait. Par exemple, t'as mangé, t'as bu, t'as eu une bonne nouvelle. Alors t'as dit Alhamdulillah, n'est-ce pas? Mais là, tu l'as dit de toi-même. Là, tu l'as dit de toi-même, sans qu'il y ait un bienfait apparent qui arrive. Alors Allah Azza wa Jalla te rajoute 10. 10 en récompense et 10 en expiation de faute. Ça fait combien de mérites? Ça fait 7. Huitième mérite, c'est le bouclier, le rempart contre le feu de l'enfer. De dire ces paroles, c'est un bouclier, c'est un rempart contre le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par An-Nasa'i dans Amal Yawm al-Layla, selon Abi Hurayra, prenez votre bouclier. Ils ont dit au message d'Allah, est-ce qu'il y a un ennemi qui arrive? Il leur a dit non, le bouclier contre le feu de l'enfer. Dites, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ces paroles viendront le jour de la résurrection pour vous sauver devant vous. Et elles sont al-baqiyat us-salihat, sont les bonnes œuvres qui perdurent. Neuvième mérite. Ces paroles-là gravitent autour du trône d'Allah en prononçant un son comme un bourdonnement d'abeille en mentionnant ton nom. Toi, ton nom est mentionné proche du trône d'Allah, tel un bourdonnement d'abeille. Dans le hadith de Nu'man ibn Bashir rapporté par Al-Hakim fil Mustadrak, avant ça Ibn Majah et Ahmed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ce que vous mentionnez pour vénérer Allah et les paroles qui gravitent autour du trône avec des sons comme un bourdonnement d'abeille qui mentionnent la personne qui les a prononcées, est-ce que l'un d'entre vous n'aimerait pas être celui-ci et ne cesser d'être mentionné? Dites subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah. Je répète, dites subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ces paroles-là gravitent autour du trône. Elles font un bourdonnement comme un bourdonnement d'abeille. Elles vous mentionnent, vous. Qui n'aimerait pas parmi vous avoir cela? Ainsi a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Dixième mérite. Il reste combien de minutes? 3. Khaira, azim. Baraka. Dixième mérite, ce sont les paroles les plus lourdes sur la balance du jugement dernier, le jour de la résurrection. Ce sont les paroles les plus lourdes sur la balance du jugement dernier. Vous savez tous que Yom al-Qiyamah, il y aura une balance immense. Un plateau où on mettra les bonnes œuvres, un plateau où on mettra les mauvaises œuvres. Celui qui a les bonnes œuvres plus lourdes, il recevra son livre de la main droite. Il rentrera au paradis. Dans le cas contraire, nasallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Ibn Hibban Nasa'i fi Amal Yawm al-Layla, Ibn Hibban al-Hakim et autres, selon Abu Salma, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit bakhin, comme bonne nouvelle. C'est quand tu te réjouis d'une chose et tu es étonné de cette chose. Puis il a montré avec sa main comme ça. Il a fait le chiffre 5. Bakhin. Puis il a fait ce geste-là comme ça. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma athqalahunna fil mizan. Oh, combien elles sont lourdes sur la balance. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est quoi le cinquième? À tous ceux qui ont perdu un enfant, écoutez ce hadith. Wal waladu salihu yutawaffa lil mar al muslim fayahtasibu. Le cinquième, subhanallah, c'est quoi? C'est l'enfant qui est décédé, et le musulman patiente, il espère la récompense chez Allah. Ça sera une des choses les plus lourdes sur la balance humaine. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et un enfant que tu as perdu, et tu as espéré la récompense chez Allah. Onzième mérite, pour chaque fois que tu dis, à chaque fois que tu dis ça, c'est une sadaqa. À chaque fois que tu dis ça, c'est une sadaqa. Douzième mérite, le prophète m'a dit, ça fait partie du Coran. Pour finir, il reste une minute. En une minute, Inch'Allah ta'ala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quel est le sens de ces paroles-là? Quand tu dis Subhanallah, ça veut dire Ya Allah, tu es purifié de tout défaut, de toute similitude et de toute ressemblance avec tes créatures. Ça, c'est Subhanallah. Ya Allah, tu es exempt, purifié, éloigné de tout défaut, de toute imperfection, de toute similitude avec tes créatures. Quand tu dis Alhamdulillah, ça veut dire Ya Allah, tu as la perfection absolue. Et je mentionne cela avec le cœur plein d'amour et de vénération. C'est le fait de décrire Allah par les attributs de perfection avec amour et vénération. Quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire Allah est plus grand que tout. Dans la seigneurie, dans la divinité, dans ses noms, dans ses attributs, dans son jugement. Il reste une parole, c'est quoi? La ilaha illallah. Ça signifie La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Quand tu dis La ilaha illallah, quand tu dis La ilaha, tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Totalement, absolument. Quand tu dis illallah, tu affirmes que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Ça fait combien de mérites en tout? Après la salat, inshallah, je repose la question sur les mérites. On mentionnera le cadeau à la personne, inshallah. Si c'est un homme, il vient me voir. Si c'est une femme, elle écrit, inshallah ta'ala, et on me transmet, elle met son nom. Wa salli allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اقبل بقلوبنا الى حج بيتك الحرام يا رب العالمين وتقبل منا ووفقنا للقبول والإحسان سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.